Il est 7h.
Moi, je voudrais que ces femmes soient entendues, mais surtout être prises au sérieux. Moi, je sais que ma fille, quand elle venait au commissariat, on la regardait en rigolant, et puis elle dit « Encore vous ?»
La parole et les plaintes des victimes de violences conjugales ne doivent pas rester vaines. L'appel de la maman de Julie Douib, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de son ancien gendre et meurtrier présumé de sa fille. Un appel qui résonne d'autant plus qu'un rapport pointe aujourd'hui les nombreux dysfonctionnements qui ont conduit à un autre féminicide, le meurtre de Chahinez le mois dernier à Mérignac. Du suivi du compagnon à la protection de la victime, rien n'a fonctionné. Et puis dans ce journal, la vaccination qui s'invite en entreprise. Juste après votre éclairage éco, Nicolas Barré.
Et je vous parle de Believe, une des pépites de la French Tech qui entre en bourse ce matin et c'est tout un symbole.
À suivre aussi le regard international de Vincent Hervouette et votre édito sport, Virginie Fulpin.
Une femme inspirante, Clarisse Agbenienou, 5 fois championne du monde de judo et en tête du combat pour l'égalité homme-femme.
Et puis on retrouvera évidemment Stéphane Bern le 7-9 démarre. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Police, justice, des défaillances à tous les étages. Les conclusions accablantes de la mission d'inspection sur le féminicide de Mérignac. Cette femme de 30 ans brûlée vive en pleine rue par son mari début mai. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Ce rapport de 27 pages, vous l'avez lu. Il pointe aussi bien des manquements dans le suivi du conjoint violent que dans la protection de la victime.
Oui, aucun des filets de sécurité n'a fonctionné et ça commence dès la prison. Depuis sa cellule, Mounir continue de harceler son épouse par courrier, par téléphone. Chahinez dépose plainte, mais il bénéficie malgré tout d'un aménagement de peine. Elle n'est même pas prévenue de sa sortie de prison. Le 15 mars dernier, elle dépose plainte contre lui après une agression violente sur le parking d'un supermarché. Le policier qui la reçoit transmet un document illisible, incomplet au parquet. Résultat, une mauvaise évaluation du danger.
Et tout ça, ça n'a donné lieu à aucune enquête ?
Si, une enquête, mais malmenée. Le rapport souligne clairement que les policiers n'ont pas mis tout en œuvre pour retrouver cet homme qui continue d'intimider son épouse. Ils n'ont fait aucune démarche, par exemple, auprès de son employeur, alors qu'il travaillait sur un chantier. Et quand les policiers contactent son conseiller pénitentiaire, ils ne pensent pas à lui demander quel est le prochain rendez-vous prévu. Et le conseiller ne les prévient pas non plus quand il reçoit le suspect 2 fois après cet échange. Mounir aurait dû être interpellé au cours de ces entretiens.
Et la victime, elle a été protégée, Marion ?
Non, ce qui est terrible, c'est que lors d'un comité de pilotage d'attribution du téléphone grave danger, le 18 mars, trois jours après sa plainte, le cas de Chahinez a été évoqué. Mais la policière présente à la réunion n'était pas au courant de sa plainte, ni de l'avis de recherche qui vise son conjoint. Chahinez ne sera donc pas équipée. Enfin, le 29 mars, Mounir se présente lui-même au commissariat de Mérignac. Il se plaint de ne pas voir ses enfants et fait un esclandre. Un policier lui demande alors de quitter les lieux. C'est le même fonctionnaire qui a recueilli la plainte de sa femme Chahinez 2 semaines plus tôt. S'il avait passé son nom au fichier des personnes recherchées, Mounir aurait été interpellé.
Des dysfonctionnements en série, donc Marion, et le gouvernement a très vite réagi hier soir, dégainant 6 mesures pour mieux protéger les victimes.
Oui, la plus importante, c'est la création d'un fichier national des conjoints violents auquel tout le monde aurait accès, police, justice, administration, pénitentiaire. Pour le reste, le gouvernement nous dit plus de téléphones grave danger, plus de bracelets anti-rapprochement. Il n'y en a que 92 qui sont équipés, déployés sur 1000 aujourd'hui. Certaines recommandations du rapport, pourtant demandées par les associations, ne sont pas reprises, comme l'avis systématique aux victimes de la sortie de prison d'un conjoint violent ou l'évaluation systématique de sa dangerosité par un expert tout au long de la procédure.
Des explications signées Marion Dubreuil pour Europe 1.
Et triste ironie de l'actualité, comme une preuve de l'inertie des autorités dans ces dossiers, aujourd'hui s'ouvre le procès du meurtre de Julie Douib devant la cour d'assises de Bastia.
C'était le 3 mars 2019. Cette maman de 2 enfants âgés de 34 ans était tuée par balle par son ex-compagnon. Malgré 6 plaintes et 5 mains courantes déposées, 3 jours avant sa mort, elle avait même demandé à la gendarmerie de le désarmer. L'affaire avait eu un tel retentissement qu'elle avait débouché sur le Grenelle des violences conjugales. Pour la mère de la maman de la victime, Violette Douib, la question du respect de la parole de ces femmes doit être au centre de ces dossiers.
Moi, je voudrais que ces femmes, ces filles, qu'elles soient entendues, mais surtout être prises au sérieux. Parce que moi, je sais que ma fille, quand elle venait au commissariat, on la regardait en rigolant, et puis elle dit « Encore vous ? Elle n'est pas finie, votre histoire ?» Ça, c'est... Il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut vraiment, les prendre au sérieux.
L'appel de Violette Douib pour une meilleure prise en compte de la parole des victimes de violences conjugales. Le verdict dans le procès du meurtrier présumé de sa fille devrait être rendu mercredi prochain.
7h05 sur Europe 1. Étendre encore et toujours plus la vaccination. Et les entreprises vont bientôt prendre leur part.
Avec des doses de Moderna mises à disposition pour des injections sur le lieu de travail, le gouvernement en a fait l'annonce hier et les premières commandes pourront être passées dès la semaine prochaine, Anne Le Gall.
Exactement, et les 3500 médecins du travail vaccinateurs qui ne pouvaient jusqu'ici injecter que le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans pourront donc vacciner des salariés plus jeunes à partir du 21 juin. Cette mise à disposition du vaccin Moderna en entreprise fait suite à une expérimentation dans 28 grandes sociétés françaises, dont La Poste, la RATP, Safran, Veolia notamment. Une expérimentation concluante dans la mesure où les salariés trouvent souvent plus simple de programmer un rendez-vous en médecine du travail plutôt qu'en centre de vaccination. Le vaccin Moderna, vaccin à ARN messager quasiment jumeau de celui de Pfizer, a de toute façon vocation à être distribué de plus en plus en dehors des centres de vaccination, indique le ministère de la Santé. Il est déjà disponible dans les pharmacies, chez les médecins et aussi depuis cette semaine chez les infirmiers et les sages-femmes qui en ont fait la demande. Il est vrai qu'il est pour l'instant distribué au compte-gouttes à raison de 10 à 20 doses par professionnel et par semaine, mais les livraisons vont continuer à augmenter en juillet et en août.
Voilà, une simplification donc en vue. Anne Le Gall, merci.
Entre primaire et sondage, les Républicains tentent d'innover pour désigner leur candidat à la présidentielle.
L'idée retenue et annoncée hier, c'est de commander au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, une grande enquête d'opinion à l'automne.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Les candidats potentiels réagissent comment à cette annonce ?
Eh bien, la méthode est diversement appréciée. Xavier Bertrand, candidat déjà déclaré pour 2022, refuse de participer à une primaire, mais ça n'empêche pas de le sonder, à en croire un de ses amis. Du côté de Valérie Pécresse, on regarde ça de loin. Un de ses lieutenants avoue être dubitatif. Même doute pour ce soutien de Michel Barnier, qui attend surtout d'en savoir plus sur les 15 000 personnes amenées à se prononcer. Mais le commentaire le plus acerbe vient sans doute d'un proche de Laurent Wauquiez. « Je ne comprends même pas l'intérêt », lâche-t-il, puisqu'à partir de la rentrée, il y aura des sondages partout, en permanence. Chez LR, toute manœuvre est matière à soupçon, c'est la base. Et là, en coulisses, certains suggèrent, comme ce partisan de Bruno Retailleau, que l'opération consiste pour Christian Jacob à essayer de pousser François Baroin dans l'arène.
Et justement, le maire de Troyes, il fera partie des candidats testés ?
Alors c'est la grande inconnue, Christian Jacob ne désespère pas de convaincre son ami, même si le maire de Troyes a fait passer un message pendant des semaines à tous les ténors de droite, la présidentielle c'est non, lui n'a jamais rien dit publiquement, mais cette fois François Baroin devra bien sortir du bois en disant si oui ou non, il faut l'inclure dans la liste des candidats à tester.
Décryptage politique d'Aurélie Herbemont pour Europe 1. La tradition a été instaurée par Jacques Chirac. Emmanuel Macron s'y pliera. Aujourd'hui, visite à Clairefontaine et déjeuner avec les Bleus à la veille du coup d'envoi de l'Euro de foot.
Vous le saviez, écrivain, militant, vous allez le découvrir aussi dessinateur. Victor Hugo s'expose à partir d'aujourd'hui et pour 5 mois, place des Vosges à Paris.
À la maison, Victor Hugo, là où il vivait, des dessins à l'encre de Chine de toutes les tailles. Gérard Rodinet, le directeur du lieu.
Il va faire des dessins d'imagination très visionnaires, ça va devenir des espèces d'images de rêve. Et là, on rentre dans le grand Victor Hugo. Il dessine essentiellement avec son outil de travail d'écrivain, c'est-à-dire sa plume et son encre. En rajoutant du crayon, du fusain, quelque chose de très grave, sans doute de la suie. Ce qui donne à ses dessins une densité qui n'appartient qu'à lui. Et puis, du coup, on sent que ça vibre, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc, quand on est devant un dessin de Victor Hugo, on tombe dedans, littéralement, parce que ça vous absorbe. C'est complètement fascinant, puis ça vous fait rêver.
Gérard Rodinet, le directeur de la maison Victor Hugo à Paris, avec Diane Chénouda pour Europe 1. Cette exposition des dessins de l'écrivain en partenariat avec Europe 1, vous pourrez la voir jusqu'au 21 novembre prochain.
Le journal signé Marion Calais sur Europe 1. Il est 7h10.
Europe 1, Sébastien Krebs.
C'est une bataille qui dure depuis des mois. Les restaurateurs multiplient les recours en justice contre leurs assureurs pour demander la prise prise en charge de leurs pertes, certains contrats prévoyant une couverture en cas d'épidémie. Le groupe AXA notamment a fait l'objet de nombreuses procédures et son directeur général est ce matin sur Europe 1 pour annoncer en exclusivité une enveloppe pour régler ces litiges à l'amiable. 300 millions d'euros, 7h40. Le tête-à-tête avec Thomas Buberl. Mais d'abord, on va retrouver Nicolas Barré pour son éclairage éco et vous, Vincent Hervouet, pour votre regard international.
Oui, bonjour. La reine Elisabeth, victime de la cancel culture. Son portrait est décroché par des étudiants d'Oxford au nom de la lutte décoloniale. Shocking.
A tout de suite, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h12 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Votre éclairage écho sur ce très beau succès français. C'est un moment clé pour ce qu'on appelle la French Tech. La majeure musicale Believe entre en bourse aujourd'hui. Et déjà sa valorisation impressionne.
Bah oui, parce que Believe est valorisé autour de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus que TF1. Alors Believe n'est pas connu du grand public, mais elle est des artistes. C'est pour résumer, c'est une maison de disques version pure digitale. La grande différence avec une maison de disques classique est la suivante, c'est qu'un label classique a besoin d'un nombre limité d'artistes qui font l'essentiel du chiffre d'affaires. Le modèle, c'est des superstars qui font de très gros chiffres de vente. Avec le digital, et c'est la force de Believe, le modèle est complètement différent.
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent ?
Bah, contrairement aux maisons de disques classiques, le digital permet d'accompagner des dizaines de milliers d'artistes en les aidant à diffuser leur musique sur les plateformes type Deezer, Spotify, Apple Music, etc. via les bons algorithmes. Du coup, le marché est beaucoup plus diversifié et plus large. Il y a aujourd'hui dans le monde environ 80 000 artistes qui gagnent entre 10 000 et 100 000 euros par an grâce au digital. Le fondateur de Believe, Denis Latgary, estime qu'il y aura 1 million d'artistes comme ça d'ici 2030 dans le monde. Des artistes à qui Believe vend des services de marketing numérique et grâce à la collecte de données, les aide à trouver leur public et in fine donc à vivre de leur musique.
En entrant en bourse, Believe va donner des idées à d'autres.
Voilà, c'est un bon signe pour tout l'écosystème de ce qu'on appelle la French Tech. Ça montre qu'on commence à voir comme ça en France des sociétés qui sont suffisamment mûres pour aller en bourse, donc pour placer leur argent auprès du grand public. Il y en a d'autres auxquelles on pense immédiatement. Doctolib, que tout le monde connaît pour le coup, pourrait être un bon candidat un jour. Deezer, il y a quelques années, avait raté son introduction en bourse, mais pourquoi pas une autre tentative. On peut penser aussi à OVH dans le cloud, à Mano Mano dans le commerce en ligne. Bref, on commence à aligner en France quelques très beaux succès. La bourse est un moyen de leur donner un élan supplémentaire et comme on le sait, les Français ont accumulé beaucoup d'épargne. C'est le moment finalement d'accompagner ces entreprises.
Voilà, 2 milliards d'euros, la valorisation de Believe pour son entrée en bourse. Le succès de la French Tech, c'est aussi la une de votre journal Les Échos. Nicolas Barré, merci et à demain. Vincent Hervouet nous rejoint, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Votre regard international sur ce scandale au Royaume-Uni. Le portrait d'Elisabeth II a été décroché par les étudiants de la prestigieuse université d'Oxford qui voulaient ainsi dénoncer le colonialisme. Shocking.
Oui, c'est une gifle, un crime de lèse-majesté, pas une bouffée de colère, un acte prémédité, voté, revendiqué. Et les étudiants du Magdalen College de l'université d'Oxford ont décroché le portrait de la reine qui ornait leur foyer. Précisément, le comité de la Middle Classroom, l'espèce de club pour étudiants de troisième cycle, a voté en assemblée générale l'exclusion de la souveraine. Ils estiment que leur club doit être un lieu accueillant et neutre pour tous les membres. Le café à volonté, les piles de journaux, les fauteuils profonds ne suffisent pas. Le comité estime que pour certains étudiants, les représentations de la monarchie britannique renvoient à l'histoire coloniale récente. Et ils préjugent que ça doit leur être insupportable. La monarchie renvoie au passé. Le passé est colonial. La monarque est coupable. Ce raisonnement serait aussi bénin qu'une poussée d'acné juvénile, sauf qu'il est tenu au Magdalen College.
Ce qui est la fabrique de l'élite britannique depuis 1458.
Oui, alors on s'en sortit des prix Nobel, des Pulitzer, un bataillon de ministres, le roi George VIII, Oscar Wilde, et même, quelle horreur, Laurence d'Arabie. C'est un monument, la fac gothique au bord de la rivière, fait penser à Poudlard, et c'est là que Lewis a écrit Le Monde de Narnia. L'institution est donc gangrénée par la cancel culture, importée des facs américaines. Le président, qui est une présidente, défend le droit des étudiants à provoquer les générations plus âgées. Elle ajoute que c'est pas très difficile à faire ces temps-ci. Son flegme a mis le feu aux poudres. Le ministre de l'Éducation lui a répondu que la reine avait toujours défendu les valeurs de tolérance, d'ouverture, de respect dans le monde. Les historiens rappellent que la reine a présidé à la décolonisation du Commonwealth. Et la presse s'indigne, évidemment, de ces petits bourgeois iconoclastes.
Alors, ils ont enlevé un tableau, ils n'ont pas non plus fait sauter les Bouddhas comme l'avaient fait les talibans.
Oui, alors, Brie Johnson prend très au sérieux ces nouveaux talibans woke. Il veut obliger les facs et les syndicats étudiants à respecter le pluralisme. Un directeur de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur va donc être nommé. Quand la reine s'effacera, l'Angleterre sera en larmes. Oxford aussi, et peut-être même la Californie, où Harry et Meghan tiennent leur revanche, ayant été les premiers accusés de racisme, la famille royale.
Le regard international, signé Vincent Hervouet, chaque matin sur Europe 1. Il est 7h17. À suivre, l'héroïne du judo français Clarisse Agbegnénou, championne du monde pour la 5e fois. L'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre expression du jour, Stéphane Bern.
Oui, d'où vient cette expression? Du diable Vauvert. Étrange, non?
Vous nous racontez ça dans quelques secondes. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec, je le disais, une héroïne ce matin, Clarisse Agbegnénou. Quel palmarès, 5e titre de championne du monde chez les moins de 63 kilos. C'était hier à Budapest, et cela malgré une préparation rendue difficile par le Covid et par le report des Jeux.
Ça a été très difficile pour moi, le report des Jeux, ça a été un coup de massue, ça n'a pas été facile, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, je les remercie de m'avoir accueilli et redonné le sourire et la chaleur.
Voilà, le sourire de Clarisse Agbegnénou. Pour vous Virginie, cette judokate qui est la plus titrée de l'histoire du judo français est une inspiration majuscule pour les sportives et pour les femmes en général.
Ouais, quand je serai grande, je veux être Clarisse Agbegnénou. Vous imaginez le nombre de petites filles à qui la judokate offre le droit de croire en leurs rêves. Niu-Niu, c'est son surnom, a décroché sa 5e couronne mondiale hier, le jour où les salles de sport ont rouvert. Ça pouvait pas mieux tomber. On pourrait presque croire qu'elle l'a fait exprès tant elle a cette volonté farouche de partager et d'emmener tout le monde dans son sillage. Il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre, parce que Clarisse Agbegnénou ne fait pas les choses à moitié, elle fait tout à fond. Championne du monde hier, le regard déjà tournée vers Tokyo, on en parlait, où elle visera l'or olympique, what else, la seule médaille qui manque à son tableau de chasse. Il n'y a que son CV et son emploi du temps qui rivalisent avec l'épaisseur de son palmarès. L'adjudante-chef de la gendarmerie s'entraîne à l'INSEP, mais elle vient aussi de lancer une ligne de culottes menstruelles pour lutter contre le tabou des règles chez les sportives. Elle est aussi engagée dans une association d'aide aux bébés prématurés, elle qui est née avec 2 mois d'avance sur le terme. Et en plus, elle dialogue avec tout le monde sur les réseaux sociaux avec un humour aussi ravageur que ses hippons. Mais dis Niu-Niu, tu fais comment pour faire tout ça?
C'est une grande championne, c'est une grande dame aussi.
Ouais, elle est très engagée pour l'égalité homme-femme et nous exhorte aussi, nous, journalistes, à parler davantage des femmes dans le sport. D'ailleurs, hier, elle a gagné son 5e titre de championne du monde de judo et c'était aussi le jour de sortie du livre d'Asia Hamdi, Joue-la comme Meghan, le sport au féminin, un combat à mener. Et qui a écrit la préface? Niu-Niu, bien sûr. Je vous dis, je ne sais pas comment elle arrive à faire tout ça avec autant de passion et de pugnacité. Ce qu'elle fait sur les tatamis, on le retrouve finalement dans toute sa vie. Chapeau, madame. Pas la peine de lui dire que c'est la Teddy Riner au féminin, même s'il y a une part de vérité, ça va l'agacer et elle aura bien raison. Elle est Niu-Niu, point barre. Et ce qu'elle veut, c'est qu'on arrête de comparer les sportives et les sportifs. Il y a de la place pour tout le monde et elle se battra jusqu'au bout pour ça. Clarisse Agbegnénou, on la suivrait au bout du monde. Ça tombe bien, on va déjà la suivre à Tokyo cet été. Elle est même candidate pour être porte-drapeau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a des arguments solides. J'ai envie de la voir représenter nos couleurs et j'ai envie de voir les yeux des petites filles briller en la regardant. Oui, quand je serai grande, je vais être Niu-Niu.
On suivra les Jeux de Tokyo avec Clarisse Agbegnénou. C'est de bon augure en tout cas, tout ça, ce 5e titre donc de championne du monde. L'édito sport de Virginie Fulpin. Merci, à demain. 7h22, c'est le moment de retrouver Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Parmi les expressions un peu désuètes pour lesquelles j'ai une certaine tendresse, on peut citer « au diable Vauvert » ou « du diable Vauvert ». Quand on vient du diable Vauvert, c'est qu'on revient de loin. Mais d'où vient cette expression? De loin sans doute.
Eh bien de Vauvert, non? Il y a bien un lieu qui doit s'appeler comme ça. Après, ça n'explique pas pourquoi le diable serait là, mais vous avez peut-être la réponse.
Ne vous privez pas, Sébastien, de poser des bonnes questions. En fait, au 15e siècle, quand on s'agitait plus que de raison, on disait faire le diable de Vauvert. C'est vrai qu'on dit encore aujourd'hui s'agiter comme un beau diable. Mais alors, d'où sort ce Vauvert? On se souvient des expressions « tout part à volo » et « par monts et par veaux ». Eh bien, cela vient du val, qui est un dérivé du vallon ou de la vallée. Est-ce qu'au pluriel, les veaux pourraient être verts à cause de la verdure? Voilà qui semble tiré par les cheveux. En 1257, Saint-Louis a l'ambition d'établir un monastère à Paris. Il choisit alors l'hôtel Vauvert, un manoir en ruine situé pour les Parisiens à l'actuel carrefour de Denfert-Rochereau. Denfert, diable, coïncidence ? Totalement. En fait, le monastère avait la réputation d'être le théâtre d'événements surnaturels, voire diaboliques. Il est plus probable que ces rumeurs viennent des moines eux-mêmes, qui avaient tout orchestré pour qu'on leur fiche la paix. Tout ceci a donné l'expression « au diable Vauvert » pour dire « très loin ». Et c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de Vauvert, car quand on dit « va au diable », ça veut dire « va très loin ». Parmi les expressions actuelles, qui veulent dire à peu près la même chose, notez qu'en Argentine, on dit « donde el diablo perdió el poncho ». Comprenez, jusque là où le diable a perdu son poncho. Bon, là où il est, je ne suis pas sûr qu'il ait froid. Il peut donc, en fait, se passer de poncho.
16h-18h, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit le pharmacien et agronome Antoine-Augustin Parmentier, qui a laissé son nom à un hachis. Le forain Frédéric Krieger, dit Monsieur Fritz, qui a mis la frite en cornet et l'a popularisé comme jamais. Et le célèbre trio des inconnus, leur point commun, ils ont la patate. Sans patate même.
À tout à l'heure, Stéphane Bern, 16h, pour Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël. À suivre, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Sophie Echen. Il est 7h25. Bon réveil. Hein. 7h28, la météo, Laurent Cabrol.
Et on l'attendait, cet anticyclone. Il arrive du diable Vauvert. Il devient très très loin. Vauvert est une commune de France, figurez-vous, dans le Gard. C'est une l'écurie des taureaux de Camargue. Voilà, c'est là qu'il fera le plus chaud aujourd'hui. 32 degrés à Arles et à Vauvert, 30 à Marseille, 29 à Lyon, 28 à Paris, 27 à Nice, 25 à Amiens, 23 à Cabourg. Ce sont des villes très chaudes et elles le seront encore plus dans les jours qui viennent. Alors attention, c'est une journée ensoleillée, on l'a dit, une journée parfois tourmentée par des orages. Ces orages sont très ponctuels, impossible de les prévoir. Ils seront plus présents dans l'est de la France et plus présents dans la vallée de la Loire. Donc vigilance mes amis. Et tout à l'heure, je détaillerai toutes les régions où vous retrouverez ce dangereux cumulonimbus.
Laurent Cabrol, on vous retrouve juste avant 8h. A tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est presque 7h30.
Et vous aussi, ça vous manque de vous déhancher sous la boule à facettes. Voilà près d'un an et demi que les boîtes de nuit sont fermées. Mais un petit espoir de réouverture pour l'été. Dans ce journal, retour sur l'audition de Jean-François Copé au procès Big Malion. Les premiers mots de Joe Biden à son arrivée en Europe. United States is back. Et puis les fans des Stones vont avoir envie d'aller à Marseille. Une exposition consacrée à leur groupe préféré s'installe au Vélodrome à partir d'aujourd'hui.
Juste après le journal, Bertrand Chameroy, la touche âme, le tête-à-tête Europe Matin avec le directeur général du groupe AXA, Thomas Buberl, qui vient avec des annonces pour solder le conflit qu'il oppose aux restaurateurs. Et votre édito politique, Nicolas Bétou.
Le parti Les Républicains a décidé de s'en remettre à un sondage pour désigner son candidat à la présidentielle. C'est ce qu'on pourrait appeler un réflexe primaire.
Sans oublier Nicolas Canteloup qui nous rejoint juste avant 8h. Vous êtes sur Europe 1, soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous avons désormais les restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les casinos. Une question maintenant, à quand la réouverture des discothèques ? C'est le seul secteur qui est resté totalement à l'arrêt depuis le tout premier confinement, soit depuis 15 mois. Pour l'instant, pas d'annonce concrète de la part du gouvernement. La date du 2 juillet est évoquée. Emmanuel Macron devrait trancher le 21 juin. Autant dire que cela laisserait peu de temps aux établissements pour se préparer, Carole Ferry.
Selon les professionnels du secteur, les pistes pour le moment, c'est une jauge à 65%, des tests antigéniques à l'entrée, les consommations assis, uniquement assis maximum. Mais rien n'est encore tranché et ça ne facilite pas le recrutement du personnel qui fait déjà défaut, selon Christian Jouny du Syndicat national des discothèques.
Nous ne pouvons pas dimensionner correctement notre recrutement. Moi, ce matin, j'ai commencé l'exercice et j'ai malheureusement constaté que sur une vingtaine d'appels, j'avais déjà 18 personnes qui s'étaient orientées dans d'autres secteurs d'activité. Et je peux le comprendre, ils n'avaient pas non plus l'obligation d'attendre qu'on puisse leur donner un feu vert. Et c'est vrai que nous sommes tous dans la difficulté.
Alors si vous cherchez un job d'été, eh bien c'est le moment de préparer vos CV. Il y a besoin de serveurs, d'hôtesses d'accueil, d'agents de sécurité et puis de chauffeurs de bus, là où des transports ont été mis en place pour ramener les fêtards chez eux.
Carole Ferry, en tout cas les restaurants, les piscines, les théâtres, autant de petits plaisirs dont devra se passer Jean Castex. Pour l'instant, le Premier ministre est une nouvelle fois cas contact. Retour à la case isolement pour les 7 prochains jours.
Autre grand titre ce matin, la suite du procès de l'affaire Big Malion et du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, avec le témoignage hier de Jean-François Copé.
L'ancien patron de l'UMP est venu dire à quel point il ne savait rien et il s'est présenté comme le bouc émissaire de cette affaire. Chloé Triomphe.
Je ne me suis occupé ni de près ni de loin de l'organisation de la campagne. En un mot, commençant, Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP en 2012, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, douche toutes les questions du tribunal, au point que le procureur ironise au détour d'une phrase. Dans ce procès, nous sommes là pour comprendre comment tout cela a été possible. Je ne sais pas si nous y arriverons. En tout cas, ce n'est pas le témoin Copé qui aura répondu à la question centrale, celle de savoir qui a décidé de la mise en place de la fraude pour masquer le dépassement des plafonds de la campagne. Car Jean-François Copé avait hier une toute autre vérité à délivrer. Son témoignage d'homme politique blessé. C'est le souvenir le plus douloureux de ma vie professionnelle, explique-t-il, en racontant la haine dans les yeux de ses meilleurs ennemis à droite alors qu'il incarnait la relève dont certains ne voulaient pas. Ben voyons, j'étais le parfait bouc émissaire, conclut Jean-François Copé, qui lance une énième fléchette. Qu'est-ce que mon nom est prononcé dans cette affaire alors que je suis témoin, tandis que d'autres ne le sont jamais. Allusion à peine voilée en direction de Nicolas Sarkozy, qui sera interrogé la semaine prochaine.
Un autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui de l'ancien compagnon et meurtrier de Julie Dweeb, tué par balle en 2019, symbole des féminicides. L'affaire avait d'ailleurs déclenché le Grenelle des violences faites aux femmes. Vous entendrez le témoignage du père de la victime dans le journal de 8h de François Geffrier.
Il est 7h33 sur Europe 1. C'est parti pour 8 jours de marathon diplomatique pour Joe Biden qui entame sa première tournée européenne.
Le premier arrêt hier soir sur la base Mildenhall au Royaume-Uni et à la veille du début du G7, le président américain compte bien incarner le leadership américain.
At every point along the way, we're going to make it clear.
À chaque étape de ce processus, nous ferons clairement savoir que les États-Unis sont de retour et que les démocraties du monde entier se rassemblent pour relever les défis les plus difficiles. Joe Biden qui a rendez-vous en tête-à-tête demain avec le Premier ministre britannique Boris Johnson avant de prendre le thé avec la reine Elisabeth II.
La reine d'Angleterre qui règne depuis 69 ans, eh bien, elle est talonnée par un autre symbole britannique, les Rolling Stones.
Oui, 60 ans de carrière pour le groupe de rock mythique, les Stones, mis à honneur dans l'exposition Unzipped qui s'installe à Marseille à partir d'aujourd'hui. Des centaines d'objets rares, des instruments, des tenues, mais aussi des reconstitutions de leur studio et même de leur tout premier appartement. Visite en avant-première et en musique avec Stéphane Frangy.
Les cigarettes débordent du cendrier, les bouteilles de bière, les disques de blues traînent partout. Pour Martin Dargenlieu, l'organisateur de cette exposition, c'est ici que sont nés les Rolling Stones.
Ils jouent des heures entières et ils écoutent des disques. Alors ils les passent exprès à vitesse beaucoup moins rapide pour écouter comment ils font les accords de guitare. C'est vraiment le lieu où les Rolling Stones s'accordent et ça y est, ils se trouvent. Voilà.
Ici, on cherche l'immersion, les studios atlantiques, les instruments originaux et puis surtout les fameuses tenues de scène outrancières qui ont marqué le parrain de cette exposition, Philippe Manœuvre.
À Hyde Park, devant 500 000 de personnes, ce concert, je l'ai écouté à Europe 1. Mais ça m'a un envoyé spécial. Le groupe arrive, Mick Jagger est en robe. Il a le culot, quoi. Il fait un truc que personne n'a jamais osé. C'est ça qu'on aimait avec les Stones.
Et autre pièce rarissime, les carnets de travail, véritable mine d'informations pour le journaliste musical Olivier Cachin.
Moi, j'ai adoré lire dans le petit carnet de Keith Richards. Aujourd'hui, on a gagné 70 livres. Pas mal comme journée. Même les Stones ont commencé petit.
Et l'exposition qui se conclut sur le dernier coup des Stones, leur concert historique à la Havane. 5 écrans, 5 prises de vue différentes, comme si vous y étiez. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Ça donne envie cette expo qui nous plonge dans la légende des Rolling Stones. Ça se passe donc à Marseille, au Vélodrome.
Et c'est à découvrir tout l'été jusqu'au 5 septembre.
Le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 7h36.
Europe 1, Sébastien Krebs.
C'est l'une des régions les plus scrutées dans cette campagne des régionales. Le Rassemblement National peut-il emporter la région Sud PACA. À 10 jours du premier tour, le président sortant Renaud Muselier, qui est candidat à sa réélection, est face à Sonia Mabrouk, invitée politique à 8h15. D'abord le tête-à-tête avec ce matin le directeur général d'AXA, Thomas Buberl, qui vient en exclusivité annoncer une enveloppe pour indemniser les restaurateurs après la crise du Covid. Ce sera juste après la Toucham. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Sébastien. Ce matin, ça ne fera de mal à personne. Je vous parle de bonheur.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 8h20 sur Europe 1. C'est l'heure de la Toucham, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité.
Francis Hébert.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien. Allez, on attaque tout de suite sans échauffement avec une question pas évidente. En France, qui est la majorité silencieuse? Indice, il ne s'agit pas des fans de Francis Lalanne. Alors c'est pas fastoche, hein, vous n'avez plus de joker en plus Sébastien, mais Le Monde livre une piste. Le quotidien s'est rendu sur les rives de la Mayenne, à Château-Gontier, commune de 17 000 habitants, où l'économie tourne, je cite, à plein régime. Faible taux de chômage et morale au beau fixe. Selon le journal, la majorité silencieuse pourrait être la France heureuse. La France qui va bien. Mais alors pourquoi n'entendons-nous pas plus parler dans les médias de cette France heureuse? Élément de réponse avec ce petit reportage. Direction Château-Gontier, dans la Mayenne. Rendez-vous est pris dans ce joli pavillon avec Jean-Patrick, chef d'entreprise. Salut, bah moi c'est Jean-Patrick, mais vous pouvez m'appeler Jean-Pat. Vous voulez quelque chose à boire? Ah, je rentre tout juste du Rotary, et bah écoutez, ça va du tonnerre, le régal. Alors oui, ouais, le Covid, c'était pas jojo, mais on a eu de la chance de pas être touché. Hein. Aucun cas dans la famille, économiquement, ça n'a impacté rien du tout. Au niveau de la PME, on avait suffisamment de trésorerie. On a eu de la chance. Non, vraiment, bon chiffre d'affaires cette année. Tout va bien, quoi. Ma femme et les enfants sont en pleine forme. On vient tout juste de booker nos vacances à Pornic. On part début juillet. Et j'ai fait un check-up. Tout est nickel. Dimeo, dis bonjour à la télé. Ouais, c'est notre grand. Ouais, c'est un sacré numéro, hein, mon loustic. Ah, il en loupe pas une. Hein. L'autre jour, il nous a fait croire qu'il avait eu 16 de moyenne alors qu'il avait 18. Oh, le doudingue. Non, vraiment, aucun problème de notre côté. En plus, ça fait 2 ans qu'on a arrêté de regarder les chaînes info. Vous êtes sûr que vraiment tout va bien? Ah oui, oui. Bon, il y a bien la petite qui est fan des 3 cafés gourmands, mais à part ça, tout roule. Jean-Patrick et sa famille, c'est comme un train qui arrive à l'heure, sans intérêt pour les médias. Ce n'est pas télégénique, ça ne fait pas de clics, ça ne fait pas d'audience. Dans un monde qui se barre en cahuète, le bonheur, ça ne fait pas vendre. Et oui Sébastien, si l'on n'entend pas parler de cette France heureuse, c'est parce que c'est chiant à écouter. Bonne journée.
C'est pas si simple que ça. Bon, voilà, un peu d'optimisme. Bertrand Chameroy, la Toucham, chaque matin sur Europe 1. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Les restaurants ont donc repris du service et nous nous arrêtons ce matin sur une bataille judiciaire qui les oppose à plusieurs compagnies d'assurance depuis des mois, depuis le premier confinement. Avec cette question, la prise en charge des pertes d'exploitation de ceux qui avaient souscrit des contrats qui devaient, en théorie, les couvrir en cas d'épidémie. Le groupe AXA, notamment, est dans l'œil du cyclone, objet de multiples recours. Et ce matin, son directeur général, Thomas Buberl, est mon invité.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour Thomas Buberl.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous en direct et en studio. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour dévoiler en exclusivité ce matin le déblocage d'une enveloppe pour indemniser les restaurateurs. 300 millions d'euros. Qui va pouvoir en bénéficier?
Nous sommes aujourd'hui à un moment clé en France. La réouverture des restaurants et des bars, mais aussi la réouverture de l'économie. À un moment de retour, on veut faire partir, on veut accompagner nos clients restaurateurs dans cette réouverture, comme on l'a déjà fait pendant la crise. Et ce moment est très important de mettre derrière nous cette difficulté, le flou judiciaire qu'on a vécu dans ce dossier des restaurateurs. Je regrette tout ce qui s'est passé parce que on était divisé avec les restaurateurs par un malentendu. On a vu que les cours d'appel ont jugé dans plusieurs directions et on veut mettre ça derrière nous. 300 millions pour les 15 000 restaurateurs qui sont des clients AXA pour qu'on puisse accompagner la relance.
Ces tensions, ce malentendu, comme vous dites ce matin, c'était porté sur cette formulation du contrat que les restaurateurs avaient souscrit chez vous. Ils étaient couverts en cas de fermeture administrative due à une épidémie, mais pas lorsque cette fermeture concerne tous les restaurants. En tout cas, c'est l'argument que le groupe AXA avançait. Ça veut dire que vous avez changé de position aujourd'hui?
Non, pas du tout. Cette solution des 300 millions, ce n'est pas une indemnisation. C'est une transaction pour mettre fin à ce flou judiciaire qu'on a vécu. Vous avez vu à Bordeaux, même cette semaine, dans la cour d'appel, la cour d'appel a donné raison à AXA, mais on a vraiment vu que même les cours ne sont pas clairs entre eux.
Oui. Mais dans les trois quarts des décisions ont donné raison aux restaurateurs.
Oui, mais si vous regardez les cours d'appel qui sont importants, là, vous avez un ex perdu, un à Bordeaux gagné, et on veut mettre ça derrière nous. C'est pourquoi ce compromis.
Il y a encore beaucoup de dossiers en cours.
C'est intéressant, on a 15 000 restaurateurs, donc 1 500 dossiers. Ça veut dire qu'on offre maintenant une transaction à beaucoup de monde qui n'ont rien demandé, et ça c'est important. Même les gens qui ont perdu ont maintenant le droit à cette transaction.
300 millions d'euros pour 15 000 clients. J'ai fait le calcul, ça fait 20 000 euros en moyenne pour chacun des restaurateurs, dont certains nous écoutent sans doute ce matin. Est-ce que ça va suffire à indemniser, à compenser ces pertes majeures qu'ils ont subies depuis des mois ?
Sébastien, il faut regarder, je veux dire ça, dans les relations d'AXA. AXA a 100 millions de clients. Pour 15 000 là, on met 300 millions sur la table. C'est une grande somme et c'est vraiment une geste de transaction de résoudre ce sujet. Et j'espère que...
Mais est-ce que ça va suffire à le résoudre ? L'avocat Jean-Pierre Tertian, qui représente plusieurs restaurateurs, estime la facture, lui, à quasiment 2 milliards d'euros, donc 6 fois plus.
Alors, c'est certain que l'État a beaucoup contribué par le chômage partiel, par des moyens spéciaux. On va faire notre mieux maintenant, et ça, c'est pourquoi les agents dans le terrain vont travailler avec chaque client pour voir quelle est la solution selon le chiffre d'affaires, l'indemnisation. Moi, je suis sûr que ça va être bien reçu, parce qu'encore une fois, à peu près 13 500 clients n'ont rien demandé. Pour eux, c'est une très bonne nouvelle.
Quelles sont les démarches, si ces restaurateurs nous écoutent ce matin, qu'ils doivent démarrer aujourd'hui pour prendre contact avec vous, pour demander cette indemnisation, cette transaction, puisque ce n'est pas une indemnisation, vous
Exactement.
L'avez dit.
Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, on a dit qu'on veut aller très vite, parce que c'est maintenant le moment. Les restaurateurs veulent se focaliser sur la réouverture, et c'est pourquoi nos collaborateurs, nos agents dans le terrain, c'est à peu près 3000, qui vont, dans les prochaines semaines, contacter chaque client pour voir exactement, selon leur chiffre d'affaires, un barème pour vraiment trouver une solution de transaction.
Ça veut dire qu'ensuite, c'est une négociation individuelle, au cas par cas.
Oui, et c'est pourquoi on est vraiment fort dans le terrain. On veut utiliser nos réseaux d'agents pour résoudre ce sujet sur place le plus vite possible.
Thomas Buberl, est-ce que tous les restaurateurs qui sont vos clients chez AXA ont été dans les discussions qu'il y a pu déjà avoir, puisqu'il y avait déjà eu quelques transactions signées avec certains de vos clients? Est-ce que ces restaurateurs ont tous été traités de la même manière? Je disais que le chef Michel Sarran, chef très médiatique, vu dans Top Chef par exemple, raconte que AXA lui a fait une proposition bien plus généreuse que celle faite à l'un de ses amis bien moins connu que lui. Est-ce que les montants dépendent de la notoriété des chefs ?
Pas du tout. Les montants dépendent du contrat exact. Et aujourd'hui, on a vu qu'on a plusieurs contrats, parce que AXA a une longue histoire. L'année dernière, on a indemnisé à peu près 2000 contrats. C'était des contrats qui ont été assez ambigus dans leur formulation. Là, aujourd'hui, sur les 15 000, on parle sur un contrat. C'est le contrat standard qui est, à mon avis, très clair. Il n'y a pas de couverture en cas de fermeture administrative. Mais on veut se montrer amiable pour trouver une solution.
Transaction à l'amiable, ça veut dire, soyons très clairs, qu'en échange, ces restaurateurs s'engagent à abandonner tout recours contre l'assureur.
Bien sûr, ça fait partie, et c'était déjà le cas l'année dernière.
D'autres assureurs qu'AXA avaient fait le choix d'indemniser très vite leurs clients au début de la crise. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir pris cette position de principe qui a très vite braqué la colère des restaurateurs contre vous ?
Pas du tout, parce que, comme j'ai dit, on a déjà indemnisé l'année dernière 2000 contrats. Ça, c'était clair, c'était des formulations ambiguës. Là, on s'est montré très vite à côté de nos clients sur ce contrat standard qu'on est aujourd'hui dans le viseur. Là, la formulation est très claire et on a eu, un champ des cours d'appel qui ont montré que même les experts judiciaires ne sont pas d'accord entre eux.
cette question d'indemniser une épidémie, mais qui ne concernerait qu'un seul établissement. C'était la formulation dans le contrat.
C'est ça, parce que dans un établissement, si vous avez un cas de salmonelle dans un établissement, on a toujours indemnisé dans le passé. Là, et le contrat le dit clairement, si un restaurant, plusieurs restaurants, pour la même raison, sont fermés dans le même département, la garantie ne s'applique pas. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair.
Elle vous a coûté des clients, cette crise ? Est-ce que certains sont partis ?
Certainement, parce que c'était un moment de forte tension. Mais si vous regardez aujourd'hui, nous sommes encore le plus grand assureur des restaurateurs et on veut être à côté de nos clients, à côté des restaurateurs, parce que c'est un segment très important pour la France et on voit à quel moment ça joue positivement dans la relance maintenant. Les restaurants sont pleins, les gens sont pleins de forme et il faut soutenir cette relance.
Passer à autre chose, c'est votre message aujourd'hui, Thomas Bouvier. Merci d'être venu dévoiler cette enveloppe ce matin sur Europe 1. Donc 300 millions d'euros pour indemniser, pour mettre fin en tout cas au recours en justice pour 15 000 restaurateurs qui sont vos clients. Vous êtes le directeur général du groupe AXA. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1 ce matin.
Merci Sébastien.
8h-10.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre l'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h53 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Sébastien.
Directeur du journal L'Opinion, votre édito politique. Les Républicains ont réuni hier leur conseil stratégique pour évoquer un sujet qui divise le parti, le mode de désignation du candidat à la présidentielle.
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un conseil stratégique chez les Républicains, ce qui laisse supposer qu'il y a donc une stratégie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs stratégies concurrentes, de même qu'il y a plusieurs lignes idéologiques divergentes. Cela fait des mois que le parti se divise sur la manière de désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle. Or, dans la vie d'un mouvement politique, l'organisation de cette course à la magistrature suprême doit être une priorité absolue.
La question, c'est donc primaire ou pas primaire ?
Et si primaire il y a, alors à quel moment et avec quel votant ? Toutes ces questions sont légitimes et selon la réponse qui y est donnée, c'est un candidat qui est avantagé plutôt qu'un autre. Entre Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et maintenant Laurent Wauquiez qui repointe le bout de son ambition, la lutte d'influence bat son plein sous le regard en coin de François Baroin, qui n'est plus candidat, mais pourrait être peut-être à nouveau un vrai casse-tête.
Alors comment on s'en sort ?
Au sein des Républicains, on fait un constat. Les deux partis qui ont, à ce jour, les meilleures chances de l'emporter, ont déjà désigné leur candidat. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et ces deux-là sont déjà en campagne. Le risque existe bien que la droite républicaine se fasse rapidement distancer dans la course à l'Élysée. La logique aurait donc été d'accélérer. Eh bien non. Sous l'impulsion de son patron Christian Jacob, le conseil stratégique a décidé de tout repousser à l'automne et de s'en remettre à un ou deux sondages auprès des militants et des sympathisants auxquels il sera demandé si un candidat se détache naturellement du lot. Bon, si oui, bingo. Il sera celui qui portera les couleurs des Républicains dans la course à l'Élysée. Voilà. La démocratie sondagière avait déjà envahi notre vie quotidienne. Elle pesait en permanence sur la prise de décision des gouvernants. Cette fois, c'est carrément le choix d'un candidat qui pourrait être fait par sondage. C'est une petite victoire de la politique des apparences sur celle des idées, une victoire de l'image sur le débat. Alors bien sûr, c'est une façon habile de contourner les divergences idéologiques qui traversent les Républicains, de les cacher sous le tapis. On s'occupe moins de trouver une ligne politique qu'une cote de satisfaction.
Et si personne ne se détache, si aucun candidat ne sort nettement en tête de ce sondage ?
Eh bien alors les Républicains lanceront en octobre-novembre une primaire auprès de leurs militants. Ce sera tard, très tard. Ça relancera la compétition interne et une bataille des idées à quelques mois seulement de l'élection, avec un risque évident de discorde interne. Drôle de choix. Au fond, peut-être qu'à la place d'un conseil stratégique, les Républicains auraient en fait besoin d'un conseil tactique.
L'édito politique signé Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tiens, c'est un élu des Républicains qui est ce matin face à Sonia Mabrouk à 8h15. Renaud Muselier, le président de la région Sud. Il est temps de retrouver Nicolas Canteloup qui vient précisément donner quelques conseils à Renaud Muselier, candidat à sa réélection dans sa région PACA. Et c'est Éric Ciotti qui a un message pour lui.
Oui, bonjour Monsieur Krebs.
Bonjour.
Bonjour à la tac-tac-tac-tique de Monsieur Bétou. Permettez-moi un peu d'être léger. Bonjour à Monsieur Cabrol. Écoutez, comme vous recevez le candidat de ma famille politique, le candidat de mon parti, le candidat des Républicains, il était normal que je vienne avant son interview lui dire une ou deux insultes. Alors j'ai pensé pour Renaud Muselier à sale traître ou tête de nœud, car Renaud Muselier, en s'alliant, vous le savez, à La République En Marche, nous a planté carrément un poignard. Oui, un poignard dans le dos. Nous ne vous pouvons pas, Monsieur Krebs, courir le risque d'avoir la honte. La honte, je dis bien la honte, oui, la honte de gagner avec les voix des macronistes. J'appelle donc tout le monde à nous mettre une branlée. Voilà, c'est un appel. Battez-nous, déglinguez-nous, humiliez-nous. Voilà. Oh, cher Eric, c'est gentil de faire gagner l'Assemblée nationale dans votre région. Vous savez qu'un poste de ministre vous attend quand je serai au pouvoir, cher Eric. Non. Madame Le Pen, ne vendez pas la peau de l'ours, Madame Le Pen. Vous n'avez pas encore gagné. Bon, évidemment, je ferai tout pour. Mais jusqu'à présent, attention, vous n'avez pas encore gagné.
Nicolas Canteloup, qu'on retrouve pour la revue de presse à 8h40, et donc Renaud Muselier, l'invité politique, à 8h15. À suivre la météo, Laurent Cabrol et le journal de 8h, 7h57. Laurent Cabrol est avec
nous. Oui, de très fortes chaleurs aujourd'hui, entre 25 et 33 degrés. 33 du côté de Port-Vendres et de Castel-Sarrazin, par exemple, et 28 à Paris et 29 degrés à Bordeaux. C'est une journée marquée par des nuages qui seront, disons, des petites corolles dans le ciel, mais des nuages de chaleur, avec parfois, de temps en temps, des orages. Attention, les orages sont souvent très violents à cette époque de l'année, avec qu'à l'intérieur du cumulonimbus, de la grêle, de la pluie, du vent, des blocs de glace, le tout sous une puissance considérable, égale à 10 fois la bombe d'Hiroshima, pour vous dire à quel point il y a de la puissance dans ces orages. Et nous en aurons, et je vous dirai tout à l'heure exactement quelles sont les régions où ils peuvent être, où ils peuvent se situer. Et je vous dirai aussi si ça va durer, parce que ce type de temps n'a pas fini de nous surprendre.
A tout à l'heure, Laurent Cabrol.